La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Pour la Chine, le réchauffement climatique est aussi une formidable opportunité pour polluer plus dans l'Arctique. Et elle a trouvé en la matière un allié de poids avec la Russie.
Oui, ce matin, le South China Morning Post nous alerte sur ce grand projet qui lie donc Chinois et Russes dans le Grand Nord. On en a assez peu parlé, hein, mais cet été, pour la première fois de l'histoire, deux navires russes ont relié le port de Sabetta dans la péninsule de Yamal en Sibérie à celui de Rudong dans la province chinoise de Yangsu. Dans leur cuve, des milliers de mètres cubes de gaz naturel liquéfié issu des gisements sibériens. Et nous explique le chercheur Donald Gasper, basé à Hong Kong, cette grande première, les deux ports reliés en seulement 19 jours au lieu de 35 par le canal de Suez, elle n'aurait pas été possible sans la fonte des glaces arctiques et donc sans le réchauffement climatique. Pékin appelle cela la route nord de la soie, un vieux projet décrié par les défenseurs de l'environnement du monde entier, mais bel et bien devenu réalité. En atteste une autre première, elle aussi assez peu médiatisée la semaine dernière, mais évoquée tout de même par l'agence officielle chinoise Xinhua et reprise entre autres par l'Asia Times. Un porte-container a inauguré la fameuse route des glaces depuis la Chine jusqu'au port français de Rouen. Alors aucun des articles asiatiques qui évoquent cette prouesse ne pose la question des conséquences environnementales. On sait que les porte-containers sont extrêmement polluants, que la conséquence de l'ouverture de cette voie maritime arctique, eh bien, ce sera l'expansion sans limite des capacité d'exportation et donc de production des champs gaziers russes en Sibérie. Le dernier point soulevé par Donald Gasper dans le South China Morning Post, c'est que pour Moscou, se tourner vers l'industrie chinoise, c'est une manière inespérée de contourner la guerre commerciale et les sanctions économiques imposées par l'Amérique et l'Europe, ou quand géopolitique et préservation de l'environnement ne font décidément pas bon ménage.
Et puis aux États-Unis, justement, les médias sont accaparés par l'attente de l'ouragan monstre baptisé Florence qui doit frapper demain matin la côte sud-est.
Oui, Florence décrite dans les journaux américains en effet comme un monstre lancé à pleine vitesse sur les deux Carolines, les deux états sudistes qui devraient en subir en premier les assauts. En Caroline du Nord, le Charlotte Observer est déjà en édition spéciale pour suivre l'avancée des évacuations qui concernent plus d'1,5 million d'habitants. Reportage sur les embouteillages à perte de vue, sur les routes pour ceux qui fuient vers l'intérieur des terres. Reportage aussi sur les rayons des supermarchés vidés en quelques heures hier par ceux qui ont décidé d'ignorer les messages alarmistes des autorités et de rester chez eux. Dans la ville de Raleigh, toujours en Caroline du Nord, le News and Observer détaille les consignes de survie pour ceux qui veulent à tout prix rester et prier, stay and pray, comme ils ont tagué sur les façades de leur maison. Enfin, avec un peu de recul, Bloomberg a choisi de nous expliquer pourquoi le réchauffement climatique, encore lui, pourrait rendre plus monstrueuses encore les destructions causées par Florence. L'ouragan bute contre un front de hautes pressions atmosphériques qui est causé par un océan dont l'eau est inhabituellement chaude, et cela est combiné avec un jet stream affaibli, là encore par la hausse générale des températures. Ça va pousser Florence à ne pas frapper de plein fouet la côte, mais à s'attarder sur une zone plus vaste, avec donc la crainte d'inondations d'autant plus étendues et dévastatrices.
Enfin Camille, vous nous emmenez en Russie où les journaux se remémorent le décès du grand Pouchkine deux jours après la blessure qui lui avait été infligée par le français Georges Dantès au cours d'un duel.
C'était, Guillaume, en 1837, une histoire de femme et d'honneur bafoué, mais le duel à la russe, version 2018, c'est beaucoup moins romanesque. Car oui, hier, un général, le chef de la garde russe, Viktor Zolotov, a provoqué en duel, dans une vidéo, le plus médiatique des opposants à Vladimir Poutine, vous aurez reconnu Alexei Navalny. Le général Zolotov qui reproche d'abord à Navalny d'être un ennemi de la nation, un scélérat pour l'avoir accusé fin août de corruption autour des achats de nourriture par l'armée russe. Et le grand militaire termine en provoquant Navalny, selon la tradition des officiers russes, à l'affronter à main nue sur un ring, un tatami, où il voudra, dit-il, avant de conclure en lui jurant d'en faire, je cite, de la viande hachée bien juteuse. Alors depuis, la presse russe s'interroge sur la grandeur ou non de cette démarche. Le journal économique Vzgliad se félicite que Navalny, l'insolent, reçoive ainsi un message du monde réel, une mise au point dont la virilité et la brutalité ravissent apparemment l'auteur de l'article. À force de déverser sa boue sur le Kremlin, il fallait bien que quelqu'un le remette à sa place, lit-on en substance. La presse d'opposition, elle, préfère traiter la chose par l'ironie. Novaya Gazeta se demande si Zolotov, ancien garde du corps personnel de Vladimir Poutine, aura la classe d'aller jusqu'à sortir lui-même son adversaire de prison pour le conduire sur la plaine à la nuit tombante. Enfin, le site Medusa interroge un historien historien, qui nous explique que les règles traditionnelles du duel à la russe n'ont pas du tout été respectées, qu'au XIXe siècle, un officier du rang du général Zolotov ne se serait jamais rabaissé au point de provoquer lui-même en duel un simple civil, et de s'interroger sur cette Russie moderne où un général croit pouvoir répondre honneur bafoué et virilité démonstrative, là où on l'accuse de corruption et de détournement de fonds publics.